de votre venue et nous allons commencer avec l'habituel quart d'heure de délai. De délai de route pour ceux qui habitent loin, puisque nous avons des amis qui viennent même de Toulouse. Ils étaient les premiers d'ailleurs. Hein. Voilà, donc nous sommes à la sixième séance de nos conférences, notre petite université du Volvestre, et nous continuons les investigations vers les parties artistiques. Vous vous souvenez que ce qui était là, à la conférence de Gilles il y a un mois, que déjà on avait abordé un petit peu l'aspect art par le biais de la représentation en trois dimensions, grâce à des imprimantes 3D. Là, nous allons poursuivre avec un tour très large d'horizon sur l'évolution des arts, qui va nous bousculer géographiquement, et puis qui surtout va se positionner, chose originale, de notre point de vue à nous, de public, dont ce n'est pas le point de vue de l'artiste, mais c'est plutôt le point de vue du regardeur, de celui qui apprécie ou n'apprécie pas les œuvres. Voilà ce que je peux dire sur le contenu global de la conférence. Et maintenant, je vais passer le micro au Montesquivain de l'étape qui va présenter Antoine Sel.
Donc, Antoine Sel, enfant d'immigrés de divers pays, puisque si j'ai cru comprendre, son père était de l'Est, sa mère plutôt du Sud, mais partagée entre l'Italie et l'Espagne.
C'est ça.
Et alors, lui est né à Paris, et il a fait une partie de ses études, également à Toulouse, avant de partir pour New York, et entre-temps, il avait quand même fait, il faut le dire, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, donc normale sud. Par la suite, il a enseigné au Brésil, en France, il a traduit, enfin, je lis parce que c'est plus facile, mais je m'en veux pas, il a traduit des livres de romanciers brésiliens, différents articles dans Le Monde sur la littérature brésilienne, une thèse de doctorat de traduction poétique espagnole, tchèque et hongrois. Et puis, différentes conférences, et habite maintenant dans l'Ariège, à Verniolle, et voilà, où il enseigne au lycée de Pamiers. Voilà un tour vite fait de la personne qui m'a compté sur la conférence de ce soir, et puis je vous souhaite donc une bon suivi de conférence.
Et bonsoir donc à tous et bonsoir à tous. Je vais me tenir derrière pour que vous puissiez bien regarder donc le diaporama, et je vous propose effectivement de parler de l'évolution des arts à partir de nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire nous les non-créateurs. Alors je m'excuse pour les créateurs qui écoutent dans la salle et qui sont nombreux et nombreuses, mais je vais partir plutôt du point de vue de la personne qui regarde, de la personne qui écoute. Je vais partir de nos expériences critiques. Et la thèse, ou l'hypothèse, si vous voulez, que je vais essayer de défendre, c'est que nous vivons de plus en plus dans un monde d'expériences esthétiques. Que de plus en plus, l'art nous forme. Hein, que de plus en plus, nous sommes immergés dans un monde d'images, dans un monde de musique, dans un monde de littérature. Alors, nous allons partir de ce petit exemple. Vous connaissez peut-être cette sculpture. Elle se situe dans un village ariégeois, au bas de la grotte de Niau, le petit village de Capoulet et Junac. C'est le monument aux morts de ce petit village, et c'est une magnifique sculpture de Bourdel. Bourdel était l'ami du maire, et Bourdel donc a offert cette sculpture, qui à l'origine devait être une représentation des enfers et de figures hurlantes. Alors pourquoi prendre ce point de départ? Parce que c'est un objet qui n'a rien de plaisant. Il s'agit de personnes qui sont en train de souffrir. Il s'agit de personnes qui sont en train de souffrir à la mort. Et néanmoins, cela se présente comme une expérience esthétique qui peut ou pas être plaisante. Et cela illustre fort bien les premières réflexions que nous avons sur l'art, à savoir que l'art, c'est le plaisir non pas de ce qui existe, mais de la représentation de ce qui existe. Et un des éléments essentiels de l'art poétique d'Aristote
Et cela, il se pose la question, mais pourquoi aimons-nous la représentation d'un serpent? Pourquoi aimons-nous la représentation d'un monstre que nous n'aimerions pas dans la réalité, dans une rencontre avec la réalité? Et c'est à partir de là que pour lui, il y a une expérience esthétique. Alors, cette expérience esthétique, évidemment, elle va varier suivant les individus. Hein, elle va varier suivant la subjectivité, le goût des individus. Elle va varier, bien évidemment, suivant la place de l'individu. Ici, lorsque j'ai pris ces photographies, j'étais un individu isolé, je regardais et j'admirais, évidemment, hein, cette sculpture. Bon, si j'avais dû participer à une commémoration pour un proche, hein, ou pour des membres du village qui étaient morts, je n'aurais certainement pas eu le même type d'attitude. J'aurais participé à un groupe, j'aurais participé à une émotion collective, et je ne serais pas entré dans ce même monde d'expérience esthétique. Mais néanmoins, je pense que c'est un bon point de départ pour essayer, hein, de voir que notre expérience esthétique, elle vient du plaisir éventuel, potentiel, que l'on peut avoir par rapport à des représentations humaines. Alors, je vous propose de faire un petit tour, peut-être un petit peu rapide, des différents arts. Je ne parlerai pas des arts qui concernent le toucher, qui concernent l'odorat ou le goût. Je me concentrerai sur les deux sens, hein, les plus habituellement donc utilisés par l'art, à savoir la vue et l'ouïe. Hein. Donc je m'excuse pour tout ce qui, évidemment, je pourrais passer de côté. Et je vais commencer, hein, par ce qui est peut-être, pour beaucoup, la première manifestation, hein, donc artistique et la première expérience esthétique, à savoir la musique. Pour beaucoup, en effet, au moins depuis Rousseau, la musique aurait précédé le langage. En fait, nous n'avons strictement, hein, aucune idée exacte de l'apparition ni du langage ni de la musique, mais la musique associée à la danse a peut-être précédé. En tout cas, les premières traces que nous avons, hein, ce sont ces flûtes. Ces flûtes qui ont été trouvées dans les Alpes Souabes, hein, à Gassenklösterle. Récemment, la datation a été refaite, elle daterait de 42 000, 43 000 ans, mais bien entendu, ce n'est pas l'un des plus anciens instruments de musique, c'est tout simplement l'un des plus anciens instruments de musique, donc découvert, étudié, reconnu à ce jour. Ce qui est évident, c'est que dans toutes les sociétés, la musique et la danse ont fleuri, hein, il n'y a pas de représentation du paléolithique. Mais dans le paléolithique, vous le savez, il y a extrêmement peu de représentations humaines. Par contre, dans le néolithique, hein, 8000, 9000 ans avant le présent, on commence à voir des représentations de danse qui, semble-t-il, sont toujours associées à des rituels, à des fêtes, c'est-à-dire à des moments extraordinaires. Et le but, si vous voulez, de ce petit exposé, va être d'essayer de montrer que l'art extraordinaire est en train de devenir ordinaire, mais qu'il n'en perd peut-être pas moins, hein, tout son pouvoir et toute sa force. Alors, continuons cette petite avancée dans le temps. On retrouve sur les fresques gréco-romaines, sur les œuvres étrusques, hein, sur ces objets d'art, donc du visuel, on retrouve maintes traces de l'importance de la musique associée au corps qui bouge, associée donc à la danse. Hein. Et puis, les changements viendront peut-être des premières notations de la musique. Alors les notations asiatiques sont assez mal connues, par contre on connaît beaucoup mieux ce qui s'est passé, par exemple au XIe siècle, où Guido d'Arezzo va faire la première notation musicale. Alors c'est encore extrêmement sommaire, c'est ce que l'on appelle des neumes, hein. Donc nous n'avons ici que quelques petits points qui servaient plutôt d'aide-mémoire, hein, pour les chanteurs, mais néanmoins, on commence à avoir deux éléments essentiels, à savoir que le compositeur potentiel se sépare de l'interprète potentiel, et à savoir aussi que l'œuvre devient plus ou moins fixée, hein, et cette tendance qui va être donc d'inscrire dans une écriture quelconque les œuvres d'art, et à mon avis c'est cette tendance-là qui va permettre ensuite la duplication, la multiplication, la prolifération de ces œuvres et de nos propres expériences esthétiques. Alors, continuons, hein, en faisant d'immenses pas en avant. Vous savez que la musique va devenir progressivement profane. Les premiers concerts datent de la fin du XVIIe en Europe. Le XIXe va être évidemment le triomphe de ces concerts. et je tenais à vous représenter, à vous montrer hein, trois magnifiques représentations de Degas. Degas va s'intéresser, vous le voyez, aux musiciens de la fausse orchestre. Il va utiliser des découpages tout à fait novateurs et qui proviennent en grande partie de l'usage de la photographie. Et il va montrer la musique donc avec la danse. Il va montrer la musique dans le, qui met en valeur hein, le corps et la beauté des mouvements des danseuses, mais aussi des formes beaucoup plus populaires, puisque nous sommes hein, dans la deuxième partie donc, du 19e siècle, à Paris, en France, nous sommes dans ce qui a été appelé le début de la société de spectacle, avec des chanteurs, avec des chanteuses, avec Yvette Guibert, etc., etc., qui deviennent de plus en plus populaires et qui enchantent un public de plus en plus diversifié. Et donc l'expérience musicale, qui était relativement rare, car il fallait auparavant donc un savoir, un maîtriser un instrument ou être près de quelqu'un qui le faisait, cette expérience va commencer à se multiplier, à se démocratiser, et nos expériences musicales vont être de plus en plus nombreuses. Alors, juste à cette époque-là, où on commence à fixer le son. Alors, on ne sait pas très bien, mais la première fixation du son ne date pas d'Edison, comme on le pense, dans les années 1870, mais bien auparavant, une quinzaine d'années auparavant, d'un Français hein, qui s'appelait Scott de Martinville, qui a réussi donc à inscrire le son, mais qui n'a pas pensé au mouvement contraire, qui consisterait donc à partir de là, à diffuser le son. Il semblerait que le premier qui eut cette idée est à la fois un grand poète que j'aime beaucoup, Charles Gros, mais qui était aussi un des très grands scientifiques de cette époque, comme quoi il n'y a pas vraiment d'opposition entre science et art, et lui a conçu l'idée, mais malheureusement pour le petit cocorico national, à la première réalisation s'est faite de l'autre côté de l'Atlantique, un an par Edison, dans ces années 70. Donc on commence à pouvoir graver le son, on commence à pouvoir le redéployer à volonté, de plus en plus, et le XXe siècle va être évidemment le triomphe de la musique partout. De la musique que l'on peut avoir chez soi, de la musique ensuite que l'on va pouvoir porter, et des expériences musicales qui vont se multiplier. Et en même temps que la musique donc est une expérience bien sûr auditive, et bien on crée des objets magnifiques, hein, comme ici, hein, cette radio Art Deco hein, américaine dans les années 30, et aujourd'hui, à partir donc de tous les systèmes d'écouteurs, là encore, on va continuer à faire des expériences hein, multiples, à créer des objets de design, donc des objets industriels, créés en masse, mais qui sont très beaux, et qui essayent d'allier le plaisir visuel et la permanence, hein, l'immersion dans un monde musical. Donc voilà ma première petite lignée. La musique est de plus en plus présente dans notre vie, elle n'est plus limitée à des rituels, à des moments extraordinaires. La musique hein, devient un environnement, l'environnement de notre vie quotidienne, grâce à toute cette progression technologique, à cette progression artistique, mais aussi, évidemment, grâce à une démocratisation de la société qui permet, tout au moins dans un pays riche, à tout un chacun, hein, d'acheter hein, ce type d'appareil. Alors, je pense que le même processus se passe pour l'art visuel. Alors, là encore, nous sommes dans l'incertitude totale quant au premier type d'art. On pense aujourd'hui de plus en plus que les premiers, ce qu'on pourrait appeler peut-être du body art, hein, c'est-à-dire la façon de décorer son corps, de le tatouer, eh bien ce n'est peut-être pas l'homme anatomiquement moderne, celui qui a l'audace de s'appeler Homo sapiens sapiens, qu'il aurait créé, mais peut-être la lignée voisine hein, des néandertaliens, tout au moins hein, c'est ce que tente d'imaginer ici, cette reconstitution, hein, bien évidemment à la frontière entre l'imaginaire et le scientifique. Vous le savez peut-être, actuellement, au jour d'aujourd'hui, les premières représentations figuratives seraient celles-ci, à savoir, hein, dans une grotte en Andalousie, à Nerra, et si l'hypothèse est juste, si la datation est confirmée, cela ne peut être que l'œuvre de néandertaliens, et non pas de l'homme anatomiquement moderne. On entre dans un domaine un petit peu plus sûr, avec évidemment la formidable grotte Chauvet. Et j'ai tenu à vous montrer cette reproduction parce qu'on voit que les artistes, quels qu'ils soient, utilisaient hein, l'espace. Ils essayaient donc de mettre leur création en deux dimensions hein, dans un espace particulier. Ils jouaient sur les convexités, sur les concavités donc de la grotte. Et si vous avez eu la chance de voir ce magnifique film en 3D de Werner Herzog qui s'appelait La grotte des rêves perdus, on voyait comment les artistes de la grotte Chauvet, mais d'autres grottes, parvenaient justement à créer des œuvres qui s'adressaient à différents sens et à différentes approches esthétiques. Alors voici pour la grotte de Chauvet. En même temps, donc nous sommes 35, 40 000 ans avant le présent, on crée les premiers objets 3D en trois dimensions figuratives avec ce petit mammouth. L'on crée des œuvres qui représentent des individus. Alors c'est ce que l'on va appeler les Vénus, mais le terme évidemment n'a pas trop de signification, c'est absolument pas ce qu'était en fait l'expérience esthétique. S'agit-il d'une amulette, s'agissait-il d'un objet religieux, d'un objet sexuel, s'agissait-il des lieux, on ne sait trop rien. Toujours est-il que dans l'image suivante, ce qui est intéressant, c'est ceci. C'est ceci car il s'agit de la première céramique créée par l'homme. Et la première céramique créée par l'homme, le premier usage n'a pas été utilitaire, mais apparemment esthétique. Tout au moins, dans ces figures féminines, et je le répète, personne ne peut savoir, personne ne peut émettre d'hypothèse incertaine à propos de ce qu'était l'expérience esthétique ou rituelle ou religieuse de ces différents objets. Et l'on arrive à des choses qui sont peut-être un petit peu plus simples, ce n'est pas très loin d'ici, c'est la grotte des trois frères, un autre Montesquieu à Vantès, et vous savez fort bien que cette grotte et ces figures périanthropes, c'est-à-dire qui mêlent l'homme et l'animal, ont été la base des interprétations de Jean-Claude et de bien d'autres, qui pensent que cet art, donc l'art pariétal au fond des grottes, était le fait de chamans qui essayaient d'aller le plus profond de la terre, et là, probablement à l'aide de psychotropes divers, d'entrer dans un état second pour permettre à eux-mêmes et à leur public d'entrer dans un autre monde, un monde imaginaire, où les frontières entre l'homme et l'animal, peut-être dans une société totémique, n'existaient plus. Ce sont bien sûr des hypothèses, mais ce sont aujourd'hui des hypothèses qui sont reprises assez fréquemment, et on peut voir ce type effectivement de forme, on le retrouve dans les grottes d'Afrique du Sud, et le maître de Jean-Claude en quelque sorte était un préhistorien, David Lewis Williams de l'Afrique du Sud, et on le retrouve dans maintes œuvres pariétales, donc de notre Europe. Alors, ce qui est aussi intéressant, et ce qui a été montré là, de façon un petit peu plus récente, c'est que beaucoup de ces œuvres semblent exprimer d'ores et déjà le mouvement. Vous remarquez le nombre de pattes ici. Et pour certains, en particulier pour le théoricien et le préhistorien Marc Azéma, ça serait la préhistoire du cinéma. Il y aurait d'ores et déjà, dans cette représentation fixe, évidemment par définition, le désir, peut-être en jouant sur les lumières qui bougeaient évidemment, peut-être le désir de nous donner une impression de mouvement, afin que notre expérience soit plus riche et plus complexe. Et Marc Azéma a beaucoup étudié ce type d'objet qui est resté longtemps très énigmatique, des sortes de rondelles, la rondelle du chamois, de l'abris de l'Eugibas en Dordogne, 15 000 ans avant notre ère. Donc vous le voyez, il y a une face et un revers, et selon Marc Azéma, ce qui peut être tout à fait improbable, eh bien on utilisait des sortes de lanières que l'on faisait passer par le trou central, et aussi on pouvait faire tourner la rondelle sur elle-même, et on avait l'impression donc d'une bête qui galopait, d'une bête qui s'avançait. Et donc par ce petit procédé, ce procédé simple, on essayait de créer d'ores et déjà, bien avant le cinéma, bien avant la bande dessinée, le mouvement, l'expérience visuelle, esthétique du mouvement. Alors continuons notre petit tour historique, si vous le voulez. Alors, l'art va proliférer, va se multiplier évidemment dans les sociétés gréco-romaines. Malheureusement, nous en avons fort peu de traces, mais nous savons avec les ruines de Pompéi ou d'autres que les murs de la plupart des sociétés, de la plupart des villas, tout au moins des villas assez riches, étaient couvertes de peintures, et des peintures qui pouvaient évoquer donc des arts physiques, comme ici peut-être la danse. Et ensuite, nous savons aussi qu'au début de notre ère, l'art visuel, qui était surtout cantonné sur les murs, si l'on excepte les céramiques, etc., on va commencer à créer des tableaux, ce qui pourrait être assimilé à des tableaux. Il s'agit, vous l'avez certainement reconnu, il s'agit des œuvres que l'on a trouvées à Fayoum, en Égypte, que l'on a trouvées à la fin du 19e. C'était des œuvres qui étaient peintes du du vivant des personnes, des œuvres extrêmement réalistes. Vous voyez qu'il ne cherchait pas obligatoirement d'engambir la personne. Et lorsque la personne était morte, eh bien l'ont placé sur le cercueil ou sur la momie, cela dépendait des formes de conservation, l'ont placé ces petits tableaux qui étaient censés donc emporter dans un autre monde la figure exacte de la personne au cours de sa vie. Donc l'on commence à créer des œuvres qui puissent être transportées, même si c'est pour un public de l'au-delà, mais des œuvres qui ne sont plus fixées et qui commencent donc de plus en plus à être par elles-mêmes mobiles. Alors, l'art va s'épanouir, il va s'épanouir, on l'oublie trop souvent, bien avant l'Europe, il va s'épanouir en Chine. Il va s'épanouir avec les paysages chinois. En Chine, on ne parle pas de paysage, on parle de shan shui. Excusez-moi, mon accent pour ceux qui connaissent le chinois. Shan, c'est-à-dire la montagne. Shui, c'est l'eau, qu'il y a évidemment dans le feng shui. Et ce type d'œuvre est une œuvre qui se déroule dans le temps. Ici, nous le voyons de façon un petit peu brutale, nous le voyons donc projeté devant nous, mais il s'agit de rouleaux, et de rouleaux que l'on va bien sûr dérouler, et le but de cette œuvre est de permettre une sorte de randonnée spirituelle, de marche spirituelle entre l'eau et la montagne, l'eau permettant à la fois d'être la base de notre vue, avec des personnages humains tout petits, minuscules, que l'on peut voir ici ou que l'on peut voir là, et puis l'eau va bien sûr se sublimer en devenant nuage, et le nuage va permettre l'osmose, la symbiose, donc, de l'eau et de la montagne, dans un but, donc, dans le but probablement, d'exprimer les convictions taoïstes, d'un nécessaire retour à la nature, d'un nécessaire retour dans cette nature qui vit, et qui nous donne la vie. Alors, ceci est une œuvre, par exemple, de Goussy, du XIe siècle, de la dynastie des Song, alors qu'en Europe, personne n'est encore capable de maîtriser, ou personne ne cherche d'ailleurs, à nous donner, à offrir des paysages. Cela viendra, évidemment, vous le savez, beaucoup, beaucoup plus tard. Voilà une expérience donc esthétique, qui était réservée à ceux qui pouvaient posséder ces objets, il ne s'agissait pas d'œuvres publiques, mais une expérience esthétique particulièrement riche. Et puis, l'art va se multiplier dans notre deuxième millénaire de façon souvent surprenante. On a tendance, par exemple, à assimiler l'Afrique à des masques qui ne sont pas, entre guillemets, réalistes. Mais cette œuvre date du XIIe siècle. Il s'agit de la culture Nok, au Nigeria, de la ville d'If. Et vous voyez une sorte de naturalisme donc, dans la représentation que aucun Européen du XIIe ou du XIIIe siècle n'était capable de faire. Et pour montrer donc ce type d'expérience esthétique, ce type de désir de voir, de nous voir reproduire en deux dimensions, en trois dimensions, a existé universellement, même dans des pays où l'on penserait donc que cela ne puisse avoir lieu. Et puis l'image va évidemment va essayer d'épouser le temps. L'image va essayer d'épouser le temps. Les cathédrales étaient en couleur, vous le savez fort bien, ici on essaie de le reconstituer, donc avec des systèmes d'éclairage, mais les cathédrales n'opposaient pas leur façade blanche ou ocre d'aujourd'hui, elles étaient en couleur, et souvent, donc, les cathédrales, tout au moins à partir de la révolution du gothique, proposaient des narrations visuelles avec les vitraux, qui permettaient donc de relire, ou de découvrir, pour ceux qui ne savaient pas lire et qui étaient devant la majorité, les textes bibliques, les textes surtout du Nouveau Testament. Et donc on a un élément ici que l'on va retrouver, qui est le désir de marier une expérience visuelle, qui est celle de la découverte en un instant, et puis l'expérience du temps, l'expérience donc de la durée. Continuons un petit peu, on arrive à l'explosion, au triomphe de la peinture, de ce que l'historien d'art Hans Welting va appeler le triomphe de la peinture. On est au XVe siècle, une œuvre fort connue, du flamand Van Eyck, et il s'agit donc d'un Italien, de Luc Arnolfini, qui commande un portrait du couple. Qui commande un portrait du couple, ben, ça arrive ensuite à affirmer que Van Eyck a découvert et a créé la peinture à l'huile, c'est pas tout à fait vrai, elle existait depuis 3 ou 4 siècles, semble-t-il, beaucoup plus à l'aise. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'agit d'un petit objet, 80 cm à peu près de hauteur, un petit objet portable, et un petit objet qui cherche, là aussi, à traduire plusieurs dimensions. Vous avez certainement remarqué ce miroir ici. Et dans ce miroir, l'on peut découvrir, bon c'est assez, ici c'est assez flou, et d'ailleurs dans le Palmeux c'est assez flou, une reproduction évidemment du dos du couple, légèrement anamorphosée, hein, légèrement déformée, et donc dans cette œuvre en deux dimensions, même si elle est sublimée hein, par l'épaisseur des glacis de la peinture à l'huile, on voit la tentative de faire pénétrer à l'intérieur du tableau, tentative qui sera multipliée hein, par la découverte de la perspective hein, de cette époque en Italie ou dans le monde donc le plus, plus nordique. Alors, l'image, donc vous la voici, elle est un petit peu plus classique, vous voyez, et l'on peut voir le couple et aussi hein, le peintre, l'artiste hein, que l'on peut dessiner ainsi hein, dans ce miroir, entouré bien sûr de salons religieux, avec le rappel donc hein, de la religion qui préside. Hein, qui préside à la destinée du jeune couple. On continue un petit peu, on arrive vers 1520, et on arrive à un des premiers artistes qui va devenir célèbre dans toute l'Europe. Il s'agit d'Albrecht Dürer. Il va devenir célèbre par ses magnifiques œuvres, hein, par ses dessins, par ses peintures, mais surtout par ses gravures. C'est surtout le procédé de gravure qui va multiplier l'œuvre et qui va permettre donc une multiplication du nombre des acheteurs, une multiplication hein, des expériences esthétiques qui va permettre à des œuvres comme ceci, hein, magnifique, la fameuse Mélancolia, d'être connue. Hein, une œuvre énigmatique, hein, une œuvre hein, qui multiplie les mystères, les énigmes, il s'agit par exemple d'un carré magique, hein, où tous les totaux hein, donc, forment 34, hein, peu importe l'abondance des détails, ce qui pour nous nous intéresse, c'est que cet artiste va devenir de plus en plus célèbre, qu'il va en quelque sorte imposer son logo, sa signature, sa magnifique signature, et surtout par ses gravures sur cuivre, ses gravures sur bois, hein, qui vont se multiplier, et l'œuvre va commencer donc à être vue de plus en plus, dans de plus en plus d'endroits. Alors, la grande révolution en matière de peinture, ça va être la création des musées. Lorsque l'on va quitter l'expérience privée, qui était réservée évidemment aux plus riches, hein, pour une expérience publique, hein, les premiers musées vont être certainement celui hein, de Londres aux alentours de 1750, puis la Révolution française sera hein, de même évidemment à la fin du XVIIIe siècle. Et l'autre révolution sera la création de la lithographie, hein, c'est-à-dire la création de la reproduction plus facile sur des blocs de calcaire. Alors là encore, il s'agit d'une découverte par sérendipité, une découverte fortuite, puisque c'est un Allemand, encore une fois, Louis Zenefeld, qui a découvert ceci. Il s'agissait d'un dramaturge qui n'avait pas beaucoup de succès avec ses pièces de théâtre et qui voulait les imprimer, qui voulait les imprimer à moindre coût. Il a découvert ce procédé qui a totalement multiplié l'image au 19e. Le livre précédent, c'était un petit livre qui annonce un petit peu le tourisme, qui annonce le désir d'aller voir les œuvres que l'on aime. Et ce type de lithographie, dans les années 1820-1830, va réorienter notre goût, va par exemple nous faire aimer les églises gothiques, qui étaient longtemps considérées comme des œuvres de barbares, qui étaient longtemps considérées comme des œuvres indignes d'une véritable expérience esthétique. Eh bien, on va partir de ce moment-là, on va de plus en plus les apprécier. Avec Prosper Mérimée, on va les conserver, on va les étudier, parfois avec Violet-Meluc, on va les transformer, hein, pour le bien ou pour le mal, hein, peu importe, mais en tout cas l'expérience esthétique va être multipliée par les images, et l'expérience esthétique va bien entendu concerner ce que les romantiques appellent le sublime, la découverte des Pyrénées en particulier, la découverte d'une nature qui fait peur, qui nous émerveille, hein, qui soit extraordinaire, et tout ceci, c'est le début du tourisme, hein, pris dans le sens de la recherche d'une expérience esthétique que je n'ai pas autour de moi, et c'est la multiplication des images dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire. Alors la lithographie va devenir progressivement la chromolithographie, elle va envahir les murs hein, de la fin du 19e siècle avec les fameuses chérettes, hein, les créations féminines donc, de Jules Chéret, hein, qui vont servir de publicité, et là encore, hein, l'image va devenir de plus en plus quotidienne, c'est à la même époque où les cartes postales, etc., etc., vont se multiplier, mais j'anticipe peut-être un tout petit peu sur ce que je vais vous dire. Alors, ce que je vais vous dire, évidemment, c'est que la grande révolution de l'image, ça va être la possibilité d'écrire la lumière, la photographie. Écrire la lumière sera cette révolution dans les années 1826-1827. Ici, on voit Charles Baudelaire, magnifiquement photographié par Nadar, Mais si j'ai choisi cette photographie, c'est que Baudelaire pensait que la photographie ne serait jamais un art. Il pensait que la photographie ne pourrait pas être un art, car la photographie était un moyen industriel. Et je crois que ce préjugé nous accompagne souvent et continue à nous accompagner, alors que l'histoire a montré que c'était évidemment totalement faux, que la photographie pouvait devenir un art, et un art à part entière, hein, comme tente de le montrer un parmi bien d'autres, ce photographe français, Philippe Ramel, hein, qui s'amuse évidemment, à perturber nos sens, hein, nos sens de la gravité ou nos sens de l'orientation par ces belles photographies. Alors, la photographie, bien entendu, à partir du moment que la photographie va être créée, il va être possible, hein, de créer la reproduction du mouvement, et donc le cinéma. Le cinéma va venir très vite. Le cinéma va venir très vite. Au début, hein, comme ici avec Méliès et avec Les 20 milieux sous la mer, il va s'inspirer du théâtre, il va s'inspirer de la littérature, il va rester tourné donc sur ces formes d'art, hein, qui sont les plus connues. Mais plus progressivement, il prendra sa propre autonomie, il créera, et peut-être pour la première fois dans toute l'histoire, des artistes connus mondialement. Hein, je pense que Charlot est le premier artiste qui a été connu mondialement et qui a été connu dans toutes les classes sociales parce qu'il crée un anti-héros. Nous l'appelons en français Charlot. En fait, il n'a pas de nom, vous le savez. Hein, c'est ce train, hein, c'est le clochard. Il n'a aucun nom. C'est un anarchiste. Hein, il transgresse les lois en permanence. Hein, il s'oppose, hein, donc au mécanisme destructeur des temps modernes, hein, ou au dictateur. Et bien entendu, il devient dans les années 20, dans les années 30, il devient adoré du public, mais aussi des intellectuels, mais aussi des surréalistes, etc., etc. Hein, triomphe donc du cinéma, triomphe de cette expérience esthétique, hein, qui nous permet de maîtriser le temps, et progression du cinéma, hein, le cinéma qui va conquérir le son, hein, et bien avant, hein, de parler, vous savez, le cinéma chanté avec les orchestres présents, ou les chanteurs présents, le cinéma qui va conquérir l'image, qui est peut-être aujourd'hui en train de conquérir évidemment la troisième dimension, hein, et je vous montre évidemment le grand succès de James Cameron, hein, d'Avatar, mais on ne sait trop rien puisqu'il y a eu déjà des tentatives de trois dimensions qui avaient plutôt échoué dans les années 50-60, hein, tout ça ne reste pas montré. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cinéma ne va pas détruire la peinture, tout comme les formes dérivées du cinéma de la télévision ne vont pas détruire le cinéma. Et vous le savez aujourd'hui, un des arts les plus passionnants, une des expériences esthétiques les plus passionnantes que nous avons à notre disposition, ce sont les séries télévisées. Les séries télévisées de qualité, il y en a beaucoup qui sont de moindre qualité, mais certaines sont de grande qualité, hein, comme celle-ci qui est évidemment une des plus populaires, hein, qui s'inspire d'un très bon roman, hein, de fantaisie traduit en français par Le Trône de Fer, un très bon ensemble, hein, de romans. Donc, la télévision va venir ensuite poursuivre cet itinéraire, itinéraire commencé par la photographie, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au même moment, les années 1820, les années 1830, au même moment où apparaissait la photographie, qui allait permettre donc la reproduction du mouvement, apparaissait la bande dessinée. Les premières bandes dessinées, vous le savez, sont du Suisse Taillefer. Alors, c'est encore prisonnier du théâtre. Les personnages sont de plein pied. C'est encore prisonnier de la littérature. Ce sont les textes qui sont sur le socle, hein, qui sont à la base. Mais il y a déjà, hein, ce que l'on va appeler des ellipses temporelles, c'est-à-dire des passages qui ne sont pas reproduits d'une image à l'autre, mais que notre cerveau va bien se reproduire. Et on le voit de façon beaucoup plus claire avec les chefs-d'œuvre de la ligne claire, avec les chefs-d'œuvre d'Hergé, où une image en appelle à une autre à la suite d'une ellipse temporelle, hein, où les images ne bloquent pas notre regard, alors qu'elles sont très belles, elles sont aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre, hein, comme des chefs-d'œuvre de l'art, mais elles ne bloquent pas notre regard, hein, par leur simplicité, par leur clarté, elles sont amenées à se suivre, à créer une séquence, et donc l'expérience esthétique devient celle de l'image dans le temps, au même moment, je le répète, que la photographie, hein, va donner naissance au triomphe, hein, du cinéma. Alors, cette expérience esthétique, eh bien, elle sera reconnue, tardivement, mais elle sera reconnue. Une des premières œuvres, une des premières bandes dessinées, ou plutôt, il faudrait employer le terme de roman graphique, qui va être reconnue dans les hautes instances, entre guillemets, c'est bien sûr Maus, hein, d'Art Spiegelman, qui va emporter le prix Pulitzer, hein, dans les années 80, qui va raconter la vie donc d'un survivant hein, de la Shoah, de l'Holocauste, et à partir de là, on va considérer la bande dessinée non plus comme un exercice pour enfants, hein, non plus comme une sorte de distraction, mais comme un art à part entière. Et aujourd'hui, nos expériences esthétiques hein, liées à la bande dessinée sont extrêmement variées. Vous aimez peut-être les mangas. Les mangas nous proposent hein, parfois de véritables chefs-d'œuvre. Et là, nous allons lire non pas 40-50 pages dans le format franco-belge, nous allons lire des centaines de pages hein, qui vont se suivre et qui vont créer, c'est-à-dire des mangakas, par exemple, que je préfère, ici, Urosawa, qui vont créer, je pense, de véritables chefs-d'œuvre et des expériences hein, bien différentes de ce que l'on avait l'habitude de voir. Alors, la peinture, pour autant, n'a pas disparu, bien entendu, y compris la peinture figurative. Voilà un des peintres, vous le savez, les plus célèbre, qui vient de mourir il y a peu de temps. Il s'agit du petit-fils de Freud, de Sigmund Freud. Il s'agit de Lucien Freud, hein, qui vivait en Angleterre et qui va faire de magnifiques tableaux, et des tableaux qui valent une fortune, qui valent des dizaines et des dizaines, hein, qui valent 20 ou 30 millions hein, d'euros par exemple. Hein. Donc la peinture n'a absolument pas disparu. Une expérience esthétique n'en a pas détruit une autre. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, je crois, de voir dans la peinture, c'est qu'elle se mondialise. C'est-à-dire, évidemment, à l'époque de la Renaissance, les peintres chinois étaient en Chine, ils créaient. Les peintres européens étaient en Europe, ils créaient, et il n'y avait pas de communication. Aujourd'hui, par exemple, un peintre hein, comme celui-ci, Yui Min-Chun, eh bien, est connu sur le marché mondial, est apprécié sur le marché mondial. Il y a une interaction de plus en plus forte hein, qui se fait entre les arts japonais, entre les arts chinois, entre les arts européens, américains, etc. Et donc, notre expérience esthétique s'enrichit d'œuvres provenant hein, du monde entier et d'œuvres ici qui savent dénoncer avec humour hein, les travers de la dictature chinoise. Hein, alors, l'art est devenu, l'art contemporain est devenu une immense affaire, hein, peut-être à tort, peut-être à raison, vous avez reconnu évidemment Michael Jackson, hein, il s'agit d'une œuvre néo-pop, néo-dada hein, de Jeff Koons et d'une œuvre là aussi qui vaut des fortunes et des fortunes. Et par exemple, un artiste comme celui-ci, Jeff Koons, travaille et un petit peu à la façon dont faisait Rubens, un travail hein, avec 10, 20, 30 personnes sous ses ordres, hein, qui composent les différentes donc, facettes hein, de son œuvre pour l'offrir à nos expériences. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, c'est de voir que l'art contemporain ne va pas se limiter, bien entendu, aux sculptures ou bien aux tableaux. Il va proposer des expériences différentes, il va proposer des expériences d'immersion dans la lumière. Il s'agit ici d'un des artistes que je préfère, qui s'appelle James Turrell, un Américain, qui, grâce au succès de ses œuvres, en particulier construites sur la lumière, a pu acheter un volcan éteint, dans l'Arizona, et là est en train de faire une œuvre magnifique, hein, qui à la fois creuse des grottes et qui nous permet de voir des lumières artificielles, comme ici, il utilise à merveille les néons, et des lumières naturelles. Il est en train de créer un lieu même d'expérience esthétique où on va pouvoir déambuler. On va pouvoir vivre donc la lumière dans le temps. Hein. Donc l'art contemporain va retrouver, ou plutôt va maintenant exprimer de façon nouvelle toutes ces expériences de temps. C'est ce qu'on voit dans les performances, bien évidemment. Performances non pas au sens sportif, mais tout performe, agir. Ici une performance hein, de la Hollandaise Saskia Hennens qui joue avec son corps, qui retrouve hein, peut-être un des premiers arts visuels qui a été le tatouage. Mais parfois cela va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, vous le savez, le performant peut-être le plus connu dans le monde est l'anglo-indien Tino Segal. Et Tino Segal propose des œuvres qui ne doivent pas, qui ne veulent pas être reproduites ni par la photo, ni par la vidéo. Ici, je dis une photo pirate hein, dans la tête moderne de Londres. Car ce qu'il propose, c'est de faire entrer les happy few, les rats privilégiés qui peuvent participer à sa performance, de les faire entrer dans des relations personnelles extrêmement différentes et des relations qui se déroulent sur le temps, sur des heures. Par exemple, dans une de ces performances, eh bien, les spectateurs, les spectatrices, je ne sais pas si on peut toujours employer ce mot, étaient amenés à rencontrer des enfants qui leur posaient des questions apparemment incongrues. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de la mort, etc. Et à chaque fois, la personne eh bien, se retrouvait dans une expérience, était-ce philosophique, était-ce spirituel, hein, était-ce artistique, en tout cas, une expérience artistique qui n'aurait pas été possible sans cette approche du temps, sans cette conquête hein, du temps. Alors, je continue, et j'aborde un troisième domaine, hein, vous excuserez peut-être le ton un petit peu hâtif ou rapide, je vais essayer de vous donner tous ces aspects. Il s'agit évidemment de littérature, il s'agit d'écriture. Bon, vous le savez, l'écriture a été créée, hein, semble-t-il, en Égypte, en Mésopotamie, 1500 ans avant notre ère. Et pendant 1500 ans, l'écriture n'a absolument pas servi à ce que nous appelons aujourd'hui la littérature. L'écriture, c'était la façon de compter, c'était une écriture utilitaire, on comptait tel ou tel objet. Et puis, les premières œuvres ont été créées, et ici, je vous permets de découvrir donc Gilgamesh, de façon peut-être plus simple comme ici. Hein. Donc c'est un récit qui va être sumérien. Hein. Les premières transcriptions datent probablement hein, de 1800 ou 2000 ans avant le présent. Puis ça va être un grand succès, un immense succès akkadien dans d'autres langues. Alors le titre ici de ce volume, un très très bon marché dans la collection Librio, hein, c'est le premier roman d'histoire, c'est peut-être un petit peu exagéré, en fait c'est 50 pages, 40 pages, mais il y a déjà une narration extrêmement complexe, ici elle a été adaptée, elle a été donc transformée par Léo Cher, et on a un très beau récit, et on a l'expérience, donc d'une durée, on a l'expérience d'une fiction, hein, et d'une complexité formidable, avec déjà ces premiers récits, qui n'ont pas beaucoup vieilli. Alors ce qui va être fait aussi en même temps, ce sont des chants. Ce sont des chants religieux, les fameux chants du Veda, du Rig Veda, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à être chantés, et qui jusqu'à aujourd'hui continuent à être chantés dans des buts religieux ou matériels, ici pour la santé, pour la richesse, pour la prospérité. En tout cas, c'est une expérience donc hein, esthétique, où l'on est confronté à une parole qui est censée être supérieure, qui est censée nous, hein, nous dominer. Le classique, le grand classique chinois, vous le connaissez certainement, le grand classique de la poésie, c'est le Xi Jing. Alors il va être transcrit hein, sous cette forme-là, de bambou. Et ce qui est assez extraordinaire dans ces poèmes, qui sont tout à fait profanes, enfin, de l'apparence profane, et qui sont très très, très beaux à lire, il y a de magnifiques traductions, c'est qu'assez rapidement, on va associer l'écriture qui était pourtant chantée, hein, qui n'était pas encore une écriture silencieuse, on va l'associer, l'écriture et évidemment le dessin. Et ce type de paysage, et là il s'agit d'une très belle œuvre d'un grand empereur, Xian Meng, hein, qui a été un peu le Louis XIV, si vous voulez, un hein, du XVIIIe siècle en Chine. Alors, je reviens sur ce fait essentiel, c'est que la première littérature, ce n'est pas une littérature que l'on lit individuellement, c'est une littérature que l'on écoute, c'est une littérature que l'on dit soi-même, ou alors la plupart du temps que quelqu'un va dire, que quelqu'un va chanter. Et très rapidement, on va penser hein, que les personnes les plus aptes à dire et à créer sont des personnes aveugles, hein, comme Homère, qui n'a certainement jamais existé, mais que l'on va créer, donc on va créer la figure hein, d'un chanteur, d'un compositeur qui serait aveugle, et parce qu'il n'aurait pas cette expérience visuelle, il pourrait ainsi mieux chanter et mieux créer des mondes imaginaires. Car les textes n'étaient pas destinés à être lus silencieusement. C'était de la scriptio continua. Il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation va être une découverte beaucoup plus récente. Et tous ces textes-là étaient des œuvres donc, qui demandaient quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute, avec une dissociation éventuelle des deux, cela passait par la voix. Hein. Il s'agit pendant des millénaires d'une littérature qui se dit, d'une littérature orale. Et on pense que le changement, on pense que l'apparition de lectures silencieuses, c'est-à-dire ce qui nous permet aujourd'hui à tous, y compris un enfant qui pourra lire un livre, eh bien, c'est venu au Moyen-Âge. C'est venu au Moyen-Âge européen, en fait, hein, pour ce qui concerne l'écriture chinoise ou japonaise. C'est venu avec les copistes qui, donc, dans ce travail extrêmement fastidieux, ne pouvaient plus en permanence lire à haute voix ou chuchoter leur texte, et qui, donc, ont appris à pouvoir lire silencieusement, ont appris à pouvoir individualiser leur lecture. Il y a un passage des Confessions de Saint-Augustin, donc ça date de 400 et quelques, où Saint-Augustin tout d'un coup rencontre un autre père de l'Église ancienne, et lui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire sans parler, car Saint-Augustin était incapable de lire silencieusement, comme pense-t-on la plupart des écrivains jusqu'au Moyen-Âge, hein, étaient incapables de le faire et n'avaient pas accès à ce type d'expérience. Alors, le livre va se multiplier. Le livre va être associé à un lectorat féminin, comme on va le voir dans les livres d'heures et dans les reproductions des livres d'heures, du XIIe, du XIIIe, du XIVe siècle. Hein. Et à partir de là, on va pouvoir là aussi multiplier le livre. Vous le savez, l'imprimerie n'a pas été inventée par Gutenberg. Hein. L'imprimerie a été inventée en Chine, encore une fois, Hein, là, il s'agit du premier livre qui a été imprimé, il s'agit du Sutra du Diamant, donc c'est une œuvre bouddhiste, hein, c'est dû évidemment au désir prosélyte hein, du bouddhisme, mais l'impression se faisait sur bois et se faisait page à page. Et évidemment, il était extrêmement difficile, et cela reste difficile, en chinois, de faire hein, des caractères, évidemment, aussi nombreux, hein, de caractères mobiles aussi nombreux donc, que ceux hein, qui appartiennent à l'écriture. Alors, la multiplication, évidemment, va être l'invention du caractère mobile hein, par Gutenberg. Ensuite, il va se répandre très rapidement. Et le livre va devenir un objet très bon marché, va devenir progressivement un objet qui va se démocratiser, un objet qui va permettre à cette expérience esthétique de se multiplier. Et en même temps que ces expériences vont se multiplier, on va voir, ce qui aujourd'hui est évident, le triomphe du roman. Le triomphe du roman, il s'agit aujourd'hui... Il suffit d'entrer dans une librairie, de voir le plus petit nombre de poésies, et par contre, un nombre impressionnant de romans. Et vous le savez certainement, le roman est né, le grand roman est né au Japon. Il est né aux alentours 2010, hein, là il s'agissait hein, exactement 2008, il s'agissait du millénaire du Hidiganji. C'est un livre magnifique. Et ce qui est étonnant, et ce qui est impressionnant, c'est qu'il est né dans le milieu féminin. C'est-à-dire que dans cette société aristocratique, dans les cours, donc, de la société Eyan, les femmes étaient recluses, bien évidemment. Les femmes ne pouvaient pas avoir des contacts extrêmement peu importants donc, avec leurs époux, hein, qui étaient leurs maîtres, entre guillemets, et donc elles ont constitué une vie elles-mêmes. Elles ont utilisé leur propre caractère, non plus les caractères chinois qu'utilisaient les hommes pour leurs champs guerriers, elles ont utilisé leur propre caractère, hein, je crois qu'on les appelle Kana, et leur propre écriture. Et à partir de là, on a vu des chefs-d'œuvre se créer, hein, comme celui du Ganji, mais aussi des premiers essais, les premiers journaux intimes qui ont été créés à cette époque, et donc une expérience esthétique beaucoup plus profonde, avec une densité, avec une acuité psychologique formidable, qui n'a aucun équivalent hein, dans l'Europe de cette époque. Je vous rappelle qu'on est en 1010, hein, en 1020 avec l'œuvre, hein, par exemple, donc, hein, du Ganji. Alors, notre littérature, hein, nous revenons, se multiplie au 18e, au 19e, apparaît une littérature pour enfants. Hein, ce n'existait absolument pas auparavant. Les contes de Perrault n'étaient pas destinés aux enfants. Ils vont devenir pour enfants à partir du 19e. Hein, Perrault voulait écrire pour les dames de la cour. Hein. Ils vont devenir donc à partir du 19e ces contes pour enfants, grâce en grande partie évidemment aux magnifiques illustrations, ici de Gustave Doré. Et le 19e va être la grande époque et de l'éducation, évidemment, pour tous, et la multiplication des livres. Un des premiers best-sellers, hein, vous le savez certainement, ce sont Les Misérables. Les Misérables de Hugo. Il les crée dans son exil, hein, à Guernesey, en 1862, et le livre va être vendu à 7 millions d'exemplaires jusqu'à la fin du siècle, avec des points de vente à Londres, à New York, avec des traductions extrêmement rapides, et encore une fois, avec l'appui de l'image, l'image qui vient renforcer la puissance des mots, et c'était une magnifique époque d'illustration, hein, comme ici de Jules Verne, bien entendu, hein, le triomphe de toutes ces images, hein, de toutes ces images illustrées, et d'une littérature pour enfants de grande qualité. Alors, ce qui va aussi multiplier hein, l'expérience esthétique de la fiction et de la littérature, c'est le journal. Hein. Les chefs-d'œuvre de Dostoïevski, de Dickens, de Zola, de Balzac, sont publiés avant tout dans des journaux. Hein, et de plus en plus dans des journaux populaires. Ils sont publiés donc un chapitre après chapitre. Hein, et si vous lisez les romans Macquart, vous constaterez qu'il y a toujours par exemple 14 ou 15 chapitres hein, qui constituent hein, les différentes parutions. Et cela va faire de magnifiques affiches aussi. Hein, des affiches par exemple ici illustrées hein, par un illustrateur anarchiste Steinman hein, qui était formidable. Et cela crée donc des œuvres qui vont s'adresser encore une fois hein, à tous nos sens. Alors, la lecture donc se répand, mais en même temps, les moralistes de l'époque la condamnent. Ça peut nous paraître étonnant parce qu'aujourd'hui, tous les pédagogues disent il faut lire, hein, et donc cherchent donc à faire lire les enfants, mais à cette époque-là, on va voir une multitude de textes qui vont condamner la lecture, parce que la lecture silencieuse maintenant, la lecture qui est surtout le fait des lectrices, serait le domaine du vice. Hein, vous l'avez dans ce tableau, ça serait le domaine donc, du plaisir solitaire, ça serait le domaine de l'onanisme, ça serait le domaine du narcissisme, avec le corps qui se reflète hein, évidemment dans le miroir, ça serait le domaine donc des lectures plus ou moins magnifiques, hein, qui sont glissées par cette main insidieuse, Donc la lecture a été souvent présentée à cette époque, et cela peut nous choquer, comme quelque chose d'assez négatif, tout au moins d'assez négatif, hein, parce que cela renforcerait nos tendances les plus morbides ou les plus perverses. Bon, n'empêche que la lecture va triompher. Elle va triompher aussi au XXe siècle avec le développement des voyages, va apparaître une littérature de gare, hein, qui va souvent être décriée évidemment, hein, mais qui va aussi produire et qui va aussi être à l'origine du développement des littératures comme le policier, etc. Et dans ce magnifique tableau de Hopper, on voit comment un individu peut, tout au long d'un voyage, hein, entrer dans cette expérience esthétique unique qui est la lecture silencieuse, hein, qui est la construction de son individu, hein, par la lecture. Alors, aujourd'hui, eh bien, les livres se multiplient, ils s'adressent à des publics différents, il y a le développement d'une littérature pour adolescents ou pour jeunes adultes, qui est souvent de qualité, qui est tout de suite lié au cinéma, hein, vous avez ici les fameux Hunger Games, hein, qui est un ouvrage qui n'est pas du tout un ouvrage nul, contrairement à ce qu'on peut dire, hein, et qui va créer de nouveaux genres, qui va créer un certain type de dystopie, par exemple, hein, et à chaque fois, hein, le personnage sera la plupart du temps une héroïne qui va se construire dans les difficultés, qui va construire son amour, qui va construire, hein, sa personnalité, et donc on va retrouver un art qui est à la fois tout à fait industriel, vendu à des millions et des millions d'exemplaires, mais qui n'est pas dénué de qualité, et qui joue toujours, hein, les rôles moraux habituels. Alors il me reste à terminer assez rapidement par montrer que l'expérience des spectacles, l'expérience du théâtre, est elle aussi une expérience qui va se multiplier. Le premier théâtre en tant qu'institution, c'est le théâtre grec, donc 6e, 5e, ici le théâtre d'Épidore, qui est l'hellénistique, hein, donc début du 4e. C'était un théâtre, vous le savez, religieux. C'était un théâtre qui n'était pas joué en permanence. Il était joué 3, 4, 5 jours dans l'année, pas plus, à l'occasion de fêtes, plus souvent les fêtes de Dionysos. Il y avait évidemment au milieu, hein, une petite statuette qu'on appelle le Timénée, qui était la statuette de Dionysos. C'était des concours entre dramaturges. C'était donc des spectacles qui s'adressent à un très grand public, vous le voyez, hein, mais qui ne pouvaient être joués que par des hommes, hein, qui ne pouvaient être écrits que par des hommes, et dans un contexte d'une religion, hein, bien entendu, hein, centrée sur quelques fêtes. Alors, le deuxième théâtre à être créé, et probablement sous l'influence du théâtre grec, sera le théâtre sanscrit, un magnifique théâtre qui va se développer au début de notre ère et qui va connaître son âge d'or au 5e, 6e siècle, et qui continue à être joué. Hein, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est le Shakuntula de Kalidasa, hein, que Goethe avait reconnu, et qui continue à être joué ici. Hein, voilà une photographie évidemment de notre époque contemporaine. Le premier théâtre profane est probablement le théâtre chinois, hein, 11e, 12e, 13e siècle. Alors, comme le théâtre grec, comme le théâtre sanscrit, c'est du théâtre total. C'est-à-dire que l'on chante, on parle, on danse, les costumes sont superbes, ce sont des chefs-d'œuvre visuels. C'est un théâtre qui cherche à s'adresser à une expérience totale. Hein, un tout petit peu après, au XIVe siècle, se crée le théâtre religieux du Nô, réservé uniquement à des acteurs, là encore dans un contexte extrêmement ritualisé. Hein, et puis, la multiplication du théâtre, elle viendra probablement en Europe, avec la Commedia dell'arte. Arte, ça veut dire le métier, la profession, qui sont payés. Et comme ils sont payés, eh bien, des femmes peuvent apparaître. Des femmes peuvent devenir des actrices. Il y en avait à peu près 3, hein, sur un groupe de 10. Et on va pouvoir jouer de plus en plus des spectacles profanes en improvisant. Et de plus en plus aussi, on va séparer le théâtre parlé du théâtre chanté. Voilà un des premiers opéras, l'Orfeo de Monteverdi. On est vers 1600-1601. Et en Europe, on sépare le théâtre parlé, hein, ce que nous appelons aujourd'hui appelé un théâtre, et ce qui va être chanté, alors que dans les autres pays, l'expérience, hein, esthétique reste une expérience totale. Alors, le théâtre va triompher au 19e, il y a une exposition actuellement formidable à Paris, qui montre que c'est Paris et Londres, mais surtout Paris au 19e, qui a créé la société du spectacle, qui a créé les premières stars avec Sarah Bernhardt, bien entendu. Sarah Bernhardt, c'était un génie du théâtre, mais aussi un génie médiatique. Hein, il y avait des cartes postales, il y avait des petites sculptures qu'elle vendait, elle vendait des produits dérivés, hein, à l'adresse de tout le monde. Évidemment, son image était répandue par la photographie, encore une fois une magnifique photographie, hein, de Nadar, et Sarah Bernhardt va incarner ce théâtre qui cherche hein, qui cherchent à s'adresser à tous les publics. Alors aujourd'hui au XXe siècle, vous le savez, le théâtre européen est sorti des rues, hein, est sorti, excusez-moi, des salles. Il y a un théâtre de rue magnifique, avec par exemple ici en France le Royal de Luxe, hein, qui a été longtemps basé dans à Nantes autour de Jean-Luc Courcourt, et qui a beaucoup de succès. Le théâtre le plus populaire, vous le savez aussi, eh bien, il s'est créé en dehors des scènes habituelles, c'est le théâtre des humoristes. Et tout récemment, il y a quelques semaines, vous le voyez, un humoriste, Gad Elmaleh, a reçu le grand honneur de pouvoir jouer, c'était la première fois que ça se faisait, au Palais Garnier. Hein, c'est-à-dire que l'art, qui était censé être le plus vulgaire, hein, ce que les Américains appellent le Bow Wow, hein, ici, a pu être joué dans le temple, dans le sanctuaire, évidemment, hein, de l'art de l'opéra le plus raffiné. Alors, que penser de tout ceci? J'en viens à ma conclusion, je ne suis plus à peu près lent. Hein. Que penser de tout ceci? C'est d'abord, vous voyez qu'il y a sans cesse de nouveaux arts. Il y a sans cesse de nouveaux arts, et contrairement à ce que l'on peut penser, un art nouveau ne détruit pas les arts anciens. Vous avez ici hein, le théâtre de la Folie d'Été à Paris, dans le 3e, rue Papin, qui a été longtemps le temple de l'opérette. Hein. Offenbach avait été directeur, ensuite Luis Mariano a fait ses grands triomphes dans ce théâtre. Aujourd'hui, il a été racheté par la mairie de Paris et il est devenu le premier théâtre, donc le premier lieu des arts numériques. Hein, le premier lieu des arts numériques, car des arts numériques, hein, et je crois qu'ici certains d'entre vous sont bien placés et ont déjà parlé, des arts numériques sont en train, évidemment, d'être créés. Hein, comme on peut ici en voir une petite image, peut-être un petit peu trop abstraite. En tout cas, donc, au fil des technologies, le nombre d'arts se multiplie, le nombre d'expériences esthétiques se multiplie pour un public de plus en plus vaste. Je crois qu'aujourd'hui, la question essentielle, par exemple, le bien culturel le plus acheté dans le monde, vous le savez, ce sont les jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo sont un art ou non? Je pense que c'est une des questions essentielles. Personnellement, je pense que oui. Je pense que c'est une expérience qui va probablement transformer notre façon, puisque l'on entre dans l'art par le jeu, on entre dans l'art par un aspect ludique, on entre dans l'art par la compétition éventuellement, avec les autres ou avec nous-mêmes. On retrouve donc des petites expériences. Ça, c'était une œuvre formidable de Raymond Queneau. Ça s'appelle 1000 milliards de poèmes. Et à partir des 14 vers donc, d'un sonnet, il nous propose un nombre extrêmement important de façons de créer notre propre texte. Et bien avec le jeu vidéo, on a ça. Alors on a ça parfois avec des images et des sons, évidemment, qui peuvent nous paraître de piètre qualité, mais c'est peut-être le début d'un art qui va se créer, et le début d'un art qui peut-être se répandra et sera d'une richesse formidable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet art aujourd'hui est présent dans toute notre vie. C'est qu'il est présent dans toute notre vie. C'est qu'il a une portée, parfois discutée, certains pensent qu'il est beaucoup trop présent, certains pensent par exemple que le rock, les musiques dérivées du rock ont contribué à faire disparaître ou à réduire à peu de choses donc la musique classique. En tout cas, il change notre vie. Plusieurs historiens ont fait remarquer par exemple que l'expérience esthétique du rock, une expérience esthétique qui consiste donc à ne pas rester assis, hein, comme les spectateurs des concerts vont se moquer un mot, mais à bouger, à entrer dans la musique, à se transformer le corps, que cette expérience a peut-être été un des éléments essentiels qui a fait tomber le mur de Berlin. Parce que cette musique de rock, cette expérience esthétique de rock, était interdite de l'autre côté. Elle était interdite de l'autre côté, et les jeunes qui connaissaient, voulaient danser, voulaient connaître ceci. Et si vous regardez un petit peu l'histoire des années 70-80, vous verrez que ce sont des groupes de rock à Prague, que ce sont des groupes de rock à Moscou, qui vont jouer, sans dénoncer politiquement, mais qui vont jouer un rôle essentiel dans le désir d'une autre expérience esthétique. Alors bien entendu, en même temps, il y avait de formidables écrivains, il y avait des chefs-d'œuvre, mais ces chefs-d'œuvre-là étaient réservés quand même à un public moins important. Alors, reste aujourd'hui donc à nous poser les questions de l'importance économique de ces expériences artistiques. Le tourisme, vous le savez, est devenu une industrie culturelle extrêmement importante, vous le savez, surtout en France, évidemment, où c'est une des plus importantes industries culturelles. Au départ, c'était réservé pour quelques-uns, hein, pour quelques personnes très riches, hein, comme ici Alphonse II Lamartine, hein, qui faisait le traditionnel tour, le traditionnel voyage en Orient. Et puis cela s'est multiplié. Il se crée chaque mois des dizaines de musées dans le monde, des villes qui étaient associées à la laideur, qui étaient associées au monde industriel comme Bilbao, ont été transformées par des musées comme le magnifique musée, évidemment, Guggenheim, hein, de Frank Gehry, Et vous voyez bien sûr la fameuse maman de Louise Bourgeois qui est devant. Donc l'art est en train de transformer, notre société. Certains le critiquent. Certains pensent qu'on est entré dans un monde de zapping, que cette prolifération de musées, par exemple, fait que nous ne pouvons plus avoir d'expérience forte, d'expérience de changement, de transformation personnelle. Ils ont peut-être raison, je ne sais pas. Toujours est-il que notre monde est transformé, et toujours est-il, je crois, qu'il y a deux petites certitudes. D'abord, que la science, et en particulier la science du cerveau, la neuroesthétique, connaît de mieux en mieux les expériences esthétiques. Et je suis en train de lire un livre formidable, par exemple, qui cherche à réfléchir à comment le cerveau nous permet ce type d'expérience esthétique. Comment, par exemple, tel module cérébral va reconnaître les visages, tel autre va reconnaître les paysages, et que l'on peut ainsi faire un rapport avec les différents genres de peintures qui ont pu se créer. Et l'autre, et c'est ainsi que j'aimerais terminer, l'autre évidemment, c'est que nous avons toujours de la joie. Nous avons toujours de la joie avec nos expériences, nous avons toujours de la joie à danser, comme ici évidemment ce formidable tableau de Matisse. Nous avons la joie à être bien dans notre corps, dans une expérience esthétique, où nous trouvons notre bonheur. Voilà, je vous remercie.
Est-ce qu'on peut avoir la lumière? La voilà. Eh bien, Antoine, vous avez fait un vertige d'idées, c'était bien beaucoup de choses. Non, mais vertige dans le sens que vous avez éveillé nos réactions, et ce merveilleux déroulé d'images sur tous ces arts, c'est fabuleux. Et je suis... C'est une performance en soi, effectivement. Donc finalement, la conférence en tant qu'art, ça va être un nouveau genre, finalement. Alors, mais voilà, maintenant, sortons de notre vertige et commençons à poser des questions ou à échanger entre nous sur ces questions, finalement, qui concernent l'art, qui concernent les réactions du public, qui nous concernent, puisque comment réagissons-nous vis-à-vis d'une œuvre? Alors, la question du beau, du pas beau, ce n'est plus tout à fait les questions, mais après tout... C'est comment on se positionne par rapport à quelque chose qui est donné, et les dernières choses données, donc c'est ces fameux jeux vidéo par exemple, et là vous posez la question, est-ce qu'un jeu vidéo est de l'art ou pas?
Voilà. Je serai incapable d'y répondre.
On peut faire des hypothèses.
Voilà.
Alors chers amis...
Merci pour cette conférence, vous êtes génial,
Ouais.
C'est moi qui vous remercie.
Non, c'est... Alors, nous avons des... Ah, si, une... Félix.
Oui, vous parlez du fou, en fait, comme étant quelque chose qui serait quasiment de l'ordre du physiologique, sur la manière d'appréhender les formes, les couleurs, les sons, les goûts, etc. Est-ce que vous pourriez faire un petit parallèle avec ce que disait Bourdieu sur l'apprentissage du goût? Le goût étant souvent initié par les initiés, c'est-à-dire souvent, si on revient à des dogmes du cours, à la bourgeoisie en l'occurrence, qui est de s'arroger l'apprentissage du goût et donner ce qu'elle estimait être le bon goût, qui ensuite était suivi par la pyramide de la société, qui petit à petit accéder à ce goût, sachant que ceux qui sont en haut de la pyramide, au bout d'un moment, font un saut de valeur et vont réinventer un autre goût, bien entendu. Est-ce que vous pourriez éclairer
Oui. Effectivement, on a assez... De tout temps, on a essayé de classer, de hiérarchiser les arts. Et par exemple, la première écriture qu'on va qualifier de littéraire en Égypte, elle se qualifiait déjà de belles-lettres. Il y avait déjà une expression qui est traduite par belles-lettres. Donc il y avait déjà une hiérarchie, par exemple, entre cette écriture qui était censée être supérieure, parce que c'était l'écriture des puissants, bien évidemment, c'était l'écriture de la toute petite minorité qui pouvait la posséder, et puis par ailleurs, en Égypte comme ailleurs, il existait bien sûr une littérature orale, Bon, malheureusement, nous n'avons aucune trace. Il existait des contes, il existait des chants, etc. Et cela a été considéré comme tout à fait inférieur. Donc il y a effectivement, dans toutes ces sociétés inégales, et je crains qu'il y en ait eu depuis longtemps et qu'il continue à en exister encore pendant très longtemps, il y a eu effectivement hiérarchie des arts. Alors peut-être ce qui est nouveau aujourd'hui, je crois, hein, ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a des passages entre art dit inférieur et art dit supérieur. Il y a peut-être, je crois, aujourd'hui, plus de passages qu'auparavant. Et il y a peut-être la possibilité de plus de passages. Hein, je reviens par exemple à cette série télévisée, hein, Game of Thrones, hein, le Trône de Fer. C'est un excellent bouquin. C'est un bouquin qui, à mon avis, c'est un bouquin de fantasy. Et on a un livre, donc, qui se destine à un public populaire. Et par exemple, je suis prof au lycée, les élèves adorent ce livre, hein, et en même temps c'est un livre, hein, qui à mon avis sera vraiment un des grands chefs-d'œuvre. Donc il y a des passages qui sont possibles, qui sont permis par l'éducation, etc. Mais il reste, ce que vous avez dit, et ce que Bourdieu a très bien étudié, il reste effectivement une classification, hein, une distinction, hein, qui se forme selon les différentes catégories sociales. Hein. Et peut-être que les choses bougent un petit peu. Hein.
Je ne sais pas si ça fait ça, parce que ce que moi j'ai entendu des dernières analyses, des entrées par exemple sur les dernières analyses sur les entrées au musée, par exemple, il paraît que c'est un échec sur les classes populaires. Hein,
oui, non, c'est vrai. C'est vrai que.
Moi je vois bien qu'autour de moi, il y a quand même ce clivage énorme qui est dans les classes populaires. La culture, c'est la variété, par exemple, c'est la télé-réalité maintenant, et d'autres choses, voilà, et il n'y a pas moyen de, de les faire venir et de leur faire découvrir ces côtés magnifiques, quoi. Et on n'a pas trouvé encore le langage, je crois,
qui permette de le faire. Ce clivage existe. J'enseigne le théâtre et je constate effectivement, par exemple, que ce que l'on appelle grand théâtre ne parvient pas à être populaire. Malgré toutes les politiques publiques qui ont été extrêmement importantes en France depuis la Libération, le Festival d'Avignon, tout le TNP, etc., eh bien, le théâtre n'est fréquenté que par une personne sur 20, au grand maximum. Mais il s'est créé un théâtre populaire, celui des humoristes, qui lui est connu de tout le monde. Tous mes élèves connaissent le nom de Ganemelé. Tout le monde. Et c'est un excellent acteur. Alors évidemment, ce n'est pas du Shakespeare. Évidemment, ce n'est pas l'accès à la richesse, hein, d'un texte extraordinaire. Mais peut-être que ça le sera un jour. J'enseigne le théâtre et je vois que les élèves qui viennent dans le lycée, bon, de toute catégorie populaire, adorent jouer. Ils adorent jouer. Hein. Ils ont du mal à lire effectivement Shakespeare, ils n'arriveront pas à le lire, etc. Mais ils adorent jouer et ils adorent prendre sur leur corps, sur leurs mots, hein, ces grands textes. Et ils en font des belles choses. Ils en font des belles choses. Donc c'est peut-être par ce biais, c'est pour ça que je voulais insister sur le mot expérience, c'est peut-être par l'expérience de peindre, l'expérience de jouer, l'expérience, hein, de créer peut-être des objets avec le numérique, etc. Peut-être hein, qu'une passerelle un jour se fera. Hein, mais le clivage existe.
Oui,
vous avez tout à fait raison.
De ce qui est l'art avec un grand A et quelle est la valeur de l'art populaire. Enfin, voilà, moi je m'interroge toujours, hein, sur la valeur, quand on parle d'une valeur, on parle d'émotion.
On parle d'émotion.
Je pense que voilà, les gens ont une émotion très forte à suivre.
Tout à fait.
La télé-réalité. À suivre voilà, tout ça, il y a une émotion, donc il y a ce dont vous parliez, l'espèce de, je sais plus comment vous disiez, d'émotion esthétique.
Oui.
Ils l'ont.
Oui, c'est possible, tout à fait.
Donc, qui juge de la qualité?
Pour l'instant, ce sont évidemment les critères dits supérieurs qui jugent et qui trouvent inférieures les autres formes. Hein? Mais je crois que les choses quand même changent un petit peu, parce qu'on ne peut plus rester maintenant isolé, par exemple, dans une culture dite supérieure. Hein? Je crois que maintenant, même la personne, par exemple, qui aime la musique érudite, donc la musique dite classique, va aussi connaître un autre type de musique. Hein, et que des ponts peut-être secrets. Mais peut-être suis-je trop optimiste.
Pour des musées, le pont il se fait par les classes élémentaires qui vont visiter
tout à
les
fait.
Musées, les classes...
Tout à fait.
Donc il y a quand même l'accès à la culture qui se fait.
Voilà. Et puis je crois qu'il faut peut-être voir les choses d'un point de vue mondial. Je pense qu'il ne faut pas simplement voir les choses d'un point de vue national ou européen, il faut voir les choses d'un point de vue mondial. Il y a des pays aujourd'hui, je pense bien évidemment à la Chine, où il se crée des dizaines de musées hein, quasiment chaque mois, hein, et où la population, tout en vivant souvent de façon difficile, a quand même connu ces 30 ou 40 dernières années une élévation du niveau de vie en moyenne assez impressionnante, et avec l'accès à la culture hein, de dizaines, de centaines de millions de personnes. Donc là, aussi sur un point de vue mondial, je pense qu'il faudra peut-être voir comme ceci les choses qui sont en train de se passer.
Monsieur, là.
Bonsoir. Vous m'entendez là, je ne sais pas
si vous m'entendez. Oui, pas de problème.
J'ai été vraiment impressionné par votre conférence, ce panorama à la fois visuel et vraiment impressionnant. Et ce que je cherchais à démontrer, c'est la multiplication des expériences esthétiques. Or, je me pose une question qui peut être à l'encontre de votre thèse, c'est ça qui me fait réfléchir. Ça tient un peu à la communication elle-même. La communication, ce qu'on sait, elle est faite de signifiants, de choses logiques, concrètes, rationnelles, mais aussi d'affects, de sensations, d'émotions. Et peut-être que cette partie est excessivement importante dans la mesure où cette émotion, cet affect crée un choc fulgurant qui vous dit quelque chose. Et ça peut être que dès l'origine, tous les êtres humains utilisaient les techniques qu'ils avaient à disposition pour pouvoir être dans ce lien de communication fort qui était pour eux la musique qui leur servait aussi de mémoire. Parce que vous avez insisté, et je suis d'accord avec vous, que la musique était préexistante à l'écriture, mais on se rappelle que sur les plages latines, Homère, dont vous avez parlé, chanter pour se souvenir, d'activer ce monde et de rythmer ce souvenir et les images servaient à l'orateur romain pour pouvoir se repérer dans son discours et rentrer dans une communication qui allait au-delà de la symbologie. Donc peut-être que cette multiplication des expériences esthétiques est tout simplement à l'évolution de la technique. Il y a eu l'écriture, il y a eu ensuite l'invention de la théorie, c'est-à-dire dire à Montaigne, ben, finalement, vaut mieux avoir une tête bien faite que bien faite, parce que maintenant, moi, Montaigne, je peux prendre le livre, et non pas apprendre par cœur, enfermer ma mémoire, et être libre de créer, etc. Et maintenant, avec la fracture de l'Église, la révolution de l'Église aujourd'hui, bien évidemment, on va assister à une multiplication sans cesse croissante de l'expérience esthétique. Donc peut-être que l'expérience esthétique, elle n'est pas uniquement due à l'homme lui-même, qui a toujours. Selon moi, enfin, c'est mon hypothèse, dans la même constante, il a besoin de cette communication, oui, constante, mais il se sert des lois établies, voilà peut-être ce que
vous voulez. Mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois qu'effectivement, cette émotion esthétique, bon, il est évidemment impossible d'en déceler l'origine. Une connaissance sur ce qu'on appelle à tort la préhistoire sont extrêmement mains, mais je pense que c'est constitutif effectivement de ce qu'on peut appeler l'humanité, et que ça a toujours existé. Mais comme vous l'avez dit, grâce à ces transformations technologiques, il y a de plus en plus d'expériences, mais c'est aussi des transformations de la société. Par exemple, la plupart des livres que nous lisons aujourd'hui, ce sont des livres profanes, hein, alors que la littérature est née avant tout dans un contexte religieux. Elle est née avant tout donc lié à certains rites, à certains actes que l'on faisait hein, par rapport à un au-delà ou par rapport à des entités hein, que l'on pensait supérieures. Donc il y a à la fois cette évolution technologique et en même temps une évolution sociale qui fait que nous sommes de plus en plus nombreux, qui fait quand même que par exemple aujourd'hui un enfant de 8 ans, 9 ans maîtrise la lecture silencieuse, qui n'était absolument pas maîtrisé par un Platon ou par qui se faisait lire par son esclave, qui n'était absolument pas maîtrisé donc dans l'Antiquité. Donc tout ceci, je crois, va ensemble. Alors, dans quel but, ça, j'en sais strictement rien, si tant est qu'il y a un but. Mais en tout cas, nous vivons dans ces expériences esthétiques. Aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais on peut pendant toute la journée, pendant 2 heures, 3 heures, écouter de la musique. Ensuite, le soir, je vais regarder un film à la télévision, puis avant de m'endormir, je vais lire un livre. Donc je vais passer 3, 4, 5 heures d'une expérience esthétique. Alors que dans un monde différent, un monde paysan, ça existait bien sûr, le plaisir existait, l'intelligence était la même, mais l'expérience était par définition plus restreinte. Hein, tout le monde ne savait pas jouer d'un instrument. Et pour écouter de la musique, il fallait être près de quelqu'un capable de le faire, etc. Hein. Donc, je pense que vous avez raison. Là, cette évolution technologique, qu'on a souvent tendance à minorer, comme si c'était sale, je crois que c'est effectivement...
un moyen,
bon, à mon avis, l'intelligence de l'homme, c'est de pouvoir créer sans cesse de nouvelles technologies. L'intelligence, il n'y a pas d'une part la technologie et de l'autre l'humanité. Hein, nous évoluons sans cesse en créant de nouvelles technologies. Hein, et nous existons par nos machines, nous existons par nos technologies, hein, et ensemble nous sommes en constante interaction. Hein.
Jacques, je pense que tu as une...
Oui, moi je voulais revenir sur les échelles de valeur dont parlait Madame tout à l'heure. Et ça me fait penser à une blague qui est en train de circuler sur Internet. Quelle est la différence entre un jazzman et un rocker? Alors, la réponse, c'est un rocker fait 4 accords devant 4000 personnes, le jazzman fait 4000 accords devant 4 personnes. Voilà. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que pour le jazzman, le rocker, c'est quelque chose de tout à fait mineur, oui. Alors qu'effectivement, c'est la musique de maintenant. Mais lorsque le jazz est apparu, on appelait la trame de musique la musique classique, et le jazz est musique de sauvage. Et petit à petit, finalement, au fil des temps, ces échelles de valeur, disons, se transforment. Ce qui était hier quelque chose de tout à fait minime devient finalement la référence, et par rapport à quelque chose qui est minime, et finalement la retourne. Donc effectivement, ces échelles de valeur, elles sont, disons, une image à l'instant précis.
Tout à fait, vous avez raison. Non, il y a des passages. Lorsqu'on appelait l'art primitif, hein, plus personne n'oserait utiliser ce terme horrible, on appelle art premier, a été longtemps déconsidéré. Hein, c'était jugé laid. Un masque noir, on disait un masque nègre, un art océanien, etc. Et puis, à partir du moment de l'intelligence d'un Picasso, d'un Matisse, etc., du début du siècle, on a découvert la beauté. Et maintenant, on découvre qu'il peut y avoir un art, par exemple, des aborigènes australiens qui est de grande qualité, hein, qui puisse se référer à la fois à leur monde imaginaire, à ce qu'on appelle le Dreamtime, mais à des techniques extrêmement modernes comme sur l'acrylique, etc. Et c'est pour ça que j'ai une vision relativement optimiste, dans la mesure où nous avons de plus en plus de connaissances et où nous pouvons peut-être faire des ponts. Hein. Enfin, tout au moins, notre tâche, je crois, est d'aider à construire ces ponts. Hein. Et, mais je pense que ça peut se faire.
Ouais. Gilles,
tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que quelqu'un qui crée, revenir un petit peu à l'essence de la création, bien sûr, ça fait du bien. Et moi, ma réflexion, c'était aussi par rapport à la diffusion. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de médias, notamment Internet, et il y a de plus en plus de galeries, alors virtuelles, qui se créent. Ça permet effectivement de pouvoir voir des œuvres, de ne pas pouvoir les toucher, effectivement. Et il y a cette diffusion, et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de festivals qui se créent. Mais quelque chose d'effroyable, et d'effroyable dans le bon sens, soyons clairs. Il y a vraiment, par le biais d'Internet, je pense qu'il y a justement un renforcement de la culture et de l'art. Et c'est vraiment un accélérateur. Donc on ne parle pas forcément que d'art numérique, parce que ça me concerne un petit peu. Mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de connaissances, justement, qui sont diffusées par ce biais. Et aussi quelque chose qui est très intéressant pour les créateurs, pour les artistes, c'est de voir ce que font les autres, partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant de pouvoir maintenant, même très facilement, rentrer en relation avec d'autres créateurs, avec... alors ça peut être pour des congratulations, ça c'est clair, c'est toujours quelque chose d'agréable quand on apprécie quelque chose, de le manifester. Mais c'est surtout aussi de pouvoir avoir des échanges. Donc c'est vrai que de pouvoir allier, de pouvoir travailler maintenant à distance avec un autre artiste, c'est quelque chose qui est extraordinaire, ça je le découvre. Donc je me rends compte qu'on peut faire maintenant des œuvres collectives à distance, par du numérique, et ensuite de pouvoir faire ce que j'appelle moi du bit to atoms, c'est-à-dire de transformer de la donnée numérique sous forme d'objet. Donc je pense qu'effectivement, en termes de possibilités des créations, sont décuplées maintenant, parce qu'on crée des outils.
Je pense, beaucoup de gens pensent que le numérique est une révolution comparable à l'imprimerie. L'imprimerie a multiplié, mais de façon incroyable, la disponibilité du livre. Hein, le livre est devenu donc relativement bon marché. C'est un des éléments essentiels ensuite à l'origine de l'éducation. Et beaucoup de gens pensent que le numérique est en train de faire cette révolution. Alors, bon, je crains que nous ne puissions pas voir tout à fait toutes ces conséquences. Ce sont des choses qui vont se dérouler sur des générations, sur des siècles. Hein, mais j'aurais tendance à penser que oui. Par exemple, j'étais toujours... ma première passion, c'est la poésie et c'est la littérature. Et j'étais habitué donc au goût, au plaisir du papier. Mais voilà quelque temps que je lis sur liseuse, hein, sans abandonner le papier. Et c'est un formidable multiplicateur, c'est incroyable. Hein, chez soi, de pouvoir appuyer, d'avoir tout d'un coup une œuvre. Hein, alors évidemment, un libraire n'aurait peut-être pas ce même avis. Hein, et il y aura dans cette transformation des perdants. Il y aura certainement des perdants, tout comme les copistes ont été les grands perdants de l'imprimerie, etc. Il y aura probablement des perdants. On est au tout début, je crois qu'on ne voit pas trop ce qui est en train de se passer. Mais il y a peut-être effectivement quelque chose qui va multiplier les échanges, multiplier les créations, peut-être collectives, tout à fait. Ouais.
Monsieur ? Ah, pardon. Vas-y. Ah non, ok. On passe là.
une petite histoire que je raconte. Une fois j'étais dans un magasin de musique à Toulouse, un petit magasin absolument inoubliable, et le gars il me dit je ne vends plus rien. Et le gars me dit, il m'explique pourquoi. Il dit quand même qu'il y a parfois des gens qui viennent chez lui. Et alors il m'a expliqué que les gens venaient chez lui comme le showroom des instruments qui sont achetés par les gens sur Internet. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, l'histoire de l'étendue des échanges de l'Internet au niveau de l'art, au niveau de la technique, il y a des choses prodigieuses, y compris en musique, etc., qui permettent, la technique, je veux dire, permet de créer des choses extraordinaires, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose qui se bouscule entre tout ce que qui peuvent être créés par cette diffusion mondiale extraordinaire, et ceux qui veulent en fait une uniformisation absolument lamentable, qui cacherait ce qui est le côté. En autre terme, ce que je veux dire rapidement, sans garder trop la parole, c'est que je crois qu'il y a une sacrée bataille entre les gens qui veulent uniformiser le monde à travers tout ça, et les gens qui veulent continuer à déployer la culture et toutes les formes d'expression à travers en fait les mêmes systèmes. Et là, je crois qu'il y a une bataille énorme, parce que c'est vrai que de l'autre côté, tous les gens qui veulent garder leur forme d'art local, je ne vais pas dire localiste, mais régionaliste, et je veux dire, il y a quelque chose qui se bouscule entre tout ça, et là, je crois qu'il faut faire quand même extrêmement attention, et pas avoir simplement une vision du développement technique extraordinaire qui nous amènerait le bonheur artistique. Quoi. Ouais.
Oui. Non, il y a des conflits, effectivement, il y a des contradictions, et cette peur d'une uniformisation, elle est bien réelle, et elle est peut-être justifiée, ça je n'en sais strictement rien. Je n'en sais rien.
Oui, ça marche.
La technique ne suit pas toujours.
Oui, pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez, madame, je pense que la question « qu'est-ce que l'art ?» On ne réussira jamais à vraiment répondre à cette question-là parce que c'est tellement subjectif. Et je voudrais dire aussi souvent mon impression en allant dans en voyant des installations, comme on dit maintenant, quand j'étais étudiante, on ne connaissait pas ce terme-là. j'ai souvent l'impression qu'on me prend pour une idiote, ou que j'ai souvent envie de dire, eh bien, le roi est tout nu et je suis la seule à m'en apercevoir, parce qu'on va mettre du jaune sur du jaune, et aussi, par exemple, comment justifier qu'une pièce, je ne veux pas dire une œuvre, mais une pièce de Michael Jackson avec son singe, je me souviens plus du nom du singe, peut atteindre des sommes aussi faramineuses, comment le justifier? Et je pense que quelquefois, il y a des accords entre les critiques et les directeurs de galeries.
Oui, ce sont les phénomènes du marché, effectivement, avec des bulles financières, avec des engouements. Hein, vous le savez, à l'époque des impressionnistes, c'était les pompiers qui se vendaient le plus. Hein, et puis, bon, aujourd'hui, on aurait tendance à moins les aimer, même s'il y a une certaine réhabilitation. Donc, la postérité, effectivement, dira ce qu'il faut penser de cette œuvre de Jeff Koons, hein, qui, effectivement, bon, apparaîtra peut-être un jour comme une mauvaise plaisanterie. On ne sait pas. J'ai juste voulu l'utiliser pour montrer que l'art contemporain est quand même un art en plein dynamisme, je crois. Alors qu'il y ait des nullités, c'est pas des nullités. Des choses qui sont et qui seront jugées nulles, bien entendu. Mais ça, je crois que ça a toujours été le cas. Hein, ça a toujours été le cas. Sur 10 ou sur 100 œuvres, hein, toutes n'ont pas pu effectivement répondre aux mêmes critères de qualité. Quand on regarde un petit peu d'un œil attentif, par exemple, des peintures de la Parietta, de la préhistorique, tout n'est pas très beau. Hein? Il y a des formes qui sont maladroites, évidemment, ne sont pas souvent reproduites. Hein? Mais il y a des formes qui sont maladroites, et pourtant, il y avait déjà certainement un tri, etc., 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 hein, dans ce qui a pu être gardé. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a certainement des installations qui, entre guillemets, seront raillées dans les décennies, dans les générations à venir. Mais il y aura de très belles choses, hein, de très belles choses qui seront faites maintenant, comme il y en a eu toujours.
Si je peux me permettre, peut-être est-il nécessaire qu'il y ait beaucoup d'œuvres produites pour qu'il en reste quelques-unes.
Eh oui.
Le bon grain de livret.
Oui, voilà, c'est ça. C'est le temps qui peut
le
être
temps.
Trié.
De toute façon, on les appelle éphémères pour certaines.
Pardon.
On les appelle éphémères pour certaines.
Alors, il y a des œuvres qui se veulent éphémères. Mais il y a eu, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Par exemple, dans une autre conférence, je montrais ces formidables peintures sur sable, hein, des Amérindiens, hein, ou alors le sand drawing des îles Vanuatu. Donc il s'agit de dessiner des formes qui sont par définition éphémères. Elles vont être emportées par le vent, elles ne vont pas durer. Hein, mais quand elles peuvent être captées par des photographies dans le monde d'aujourd'hui, elles nous apparaissent magnifiques, elles nous apparaissent extraordinaires. Donc là aussi, l'art, je crois, a toujours joué sur des formes destinées à être conservées, être transmises de génération en génération, et d'autres qui n'existaient que dans le moment du partage, qui était souvent un rituel, hein, c'était souvent des rituels religieux, qui n'existaient que dans ce moment-là, que dans l'intensité extraordinaire qu'on ne peut qu'à peine imaginer, hein, de ce que devait être un voyage chamanique, hein, le partage autour d'un dessin mythologique des Indiens Navajo, etc.
On ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui, la tendance qu'il a autrefois était religieux. Aujourd'hui, la religion faisait l'art, c'est plutôt l'art qui devient religieux pour le profit
Beaucoup l'ont affirmé, comme Malraux et d'autres. Beaucoup ont affirmé que l'art devenait la religion d'un monde sans religion. Hein? Je pense que ce n'est quand même plus une métaphore, hein? Mais c'est vrai que l'on prête aujourd'hui à la religion peut-être hein, certaines vertus transcendantes que l'on prêtait avant à la religion.
Une autre question madame là.
Oui, on a parlé d'expérience. Alors, on a l'air un petit peu de dire aussi que l'art est universel. Enfin, je ne sais pas, c'est un petit peu le discours là.
Ouais. Hein?
Mais, on dit aussi qu'il y a une hiérarchie. C'est vrai que ça, c'est une évidence. On a du mal, peut-être selon la culture qu'on a, justement, à aimer le classique, ou aimer le rock, ou aimer le rap. C'est vrai qu'on n'entre pas toujours facilement dans certaines cultures. Bon, on parle de la musique, mais ça peut être pour l'art contemporain, pour la littérature, pour n'importe quel art. Mais moi, j'ai aussi du mal, quand je vais à l'étranger, par exemple, assister à un théâtre du début à la fin, c'est une phrases, pas évidentes.
Tout à fait.
Mais je crois que pour les Japonais d'aujourd'hui, non plus.
Philippe Pisteux, je cite le nom, mais il y a d'autres choses. Hein, quand on voyage, quelquefois, on a l'impression, la musique, c'est toujours la même chose. Comme quoi, on parle de hiérarchie, mais il y a aussi le prisme de la culture, la grille de lecture n'est pas la même pour tout le monde. Donc, peut-être qu'ici, on a du mal à aller, certains ont du mal à aller dans un musée, mais on parle de théâtre, là, je ne sais pas, le discours que j'entends, c'est il y a le théâtre populaire, il y a le théâtre, pas classique, mais peut-être élitiste. Mais bon, c'est pareil, quand on va à Avignon, du Yann Favre ou de certaines choses, c'est pas non plus facile d'accès.
Tout à fait.
Donc, je pense que l'expérience, c'est ça. Hein, et c'est très important d'avoir toutes ces expériences. Et moi, j'avoue qu'il y a des choses, ça m'est arrivé de sortir avant la fin. Même
bien
si
sûr,
c'est
hein.
Puis, même s'il y a 2000 personnes là en train d'applaudir.
Non, ce que je pense, c'est que la capacité d'avoir une émotion extatique, nous l'avons tous. Et qu'elle est constitutive de l'humanité. Après, évidemment, ça varie d'un individu à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une catégorie sociale à l'autre, et personne ne pourrait prétendre, ça serait absurde, aimer tous les arts, toutes les œuvres de toutes les époques, bien entendu. Nous avons tous nos limites individuelles, sociales.
Bernard, pour la suite.
Oui, moi, je voudrais intervenir en reprenant un peu ma propre définition de l'art. Ma propre définition de l'art est assez classique, finalement. C'est l'art, c'est la transformation du réel par l'homme, quelle qu'elle soit. La deuxième chose que je constate, que je vois à travers l'histoire, c'est que l'art renvoie à une évaluation, à l'esthétisme. Et l'esthétisme se construit. Donc il est construit derrière avec certainement des motifs. L'art est un marché, l'art est un enjeu, l'art est le signe d'une appartenance, d'une identité, mais aussi d'une identité diverse, d'homme inférieur, d'homme supérieur, une identité de classe. Donc il est tout sauf neutre. En aucun cas il est neutre, y compris sa construction et la façon dont on le voit, on l'approche. Et donc, on a l'exemple, avec l'intervention de Joël précédemment, de dire... Et j'ai vu le spectacle No et je ne suis pas rentré. Enfin, je n'ai pas pu. C'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué. Mais peut-être qu'il a lieu, il est compliqué et que c'est un signe d'appartenance, un signe de marché, une façon de gérer une population, de la soumettre éventuellement, et une façon de faire du pognon. Voilà. Et dans l'art, je vois un peu tout ça. Et je trouve que c'est finalement assez artistique le monde.
C'est par rapport au côté éphémère que vous parliez tout à l'heure. Mais si maintenant tous nos supports c'est numérique, par exemple vous l'avez dit sur les iPods, on a des liseuses. Comment dans 2000 ans ils vont savoir comment nous on lisait ou on écoutait la musique, ils vont trouver un iPod mais ils n'auront pas le chargeur, ils n'auront plus d'appui.
C'est possible, hein.
Je veux dire, du coup si nous tout passe au numérique, après ils n'auront pas de support, ils ne pourront jamais savoir comme nous, en voyant les fresques sur les grottes, comment on vivait.
Ben, tout dépend de la capacité de conservation du numérique. Et c'est vrai que ça pose problème. Hein. Il y avait des articles récents disant que la transformation, par exemple, des films en numérique pouvait être un grand danger pour la conservation du patrimoine. Mais tout dépend. Mais comme je suis très optimiste, je trouve qu'on trouvera un moyen, le moyen de conserver le numérique. Que le numérique trouvera le moyen de se conserver lui-même.
Voilà, si je peux me permettre, le numérique permet de créer des objets tangibles maintenant.
Et pas, voilà, c'est donc, l'exemple même.
Par rapport à
ouais. Dans ce cadre-là, oui.
Bonsoir. Bon, moi, je me fais une réflexion sur l'art en tant qu'amatrice d'art et aussi peintre. Je vais faire un petit peu le fil. C'est que, oui, on parle d'esthétisme. exprimé depuis tout à l'heure. Moi, je m'interroge plus sur l'art en tant que mode d'expression, c'est-à-dire n'importe quel schéma, enfin, que ce soit le théâtre, la danse, le cinéma, la peinture, la photo, n'importe quoi, ce sont plutôt des modes d'expression que des modes d'esthétisme. Parce qu'à mon idée, l'esthétisme qui fonctionne, c'est l'esthétisme qui va au plus grand nombre, et alors que le mode d'expression, ce n'est pas le cas. L'expression interroge les gens alors que l'esthétisme plaît aux yeux, plaît aux sens. Et on va souvent dans des courants qui sont plutôt consensuels. Et j'ai pas le sentiment, il y a peut-être de plus en plus de gens qui sont au fait de l'art, c'est-à-dire culturellement, savoir que ça existe, qu'on peut le pratiquer, qu'on peut le voir, l'acheter, le consommer. Mais à côté de ça, un artiste a toujours énormément de difficultés à vivre. Alors il y en a quelques-uns qui vont sortir du lot parce que cooptés par je ne sais pas qui, et puis pareil, ou alors manipulés, parce que moi je suis dans cette tendance actuellement et je remets complètement en question le cinéma, à savoir est-ce que le cinéma est effectivement un art ou seulement une industrie qui est là pour manipuler les masses, parce que quand on réfléchit à ce qui est véhiculé dans les films, le cinéma d'aujourd'hui, on est de la culture du film plus que de la peinture par exemple, ou peut-être plus que du théâtre ou de la poésie. Je pense que dans la poésie, il peut y avoir, ou la danse, ou le théâtre, un très grand panel d'expressions, qui n'est pas le cas, je veux dire, dans le cinéma d'aujourd'hui. Donc si effectivement on s'intéresse à un cinéma divers, on va trouver, de par l'ouverture mondialiste, je veux dire, tous les réalisateurs qui peuvent exister, mais on sait aussi qui finance derrière ces spectacles, on sait à quel but ils sont fabriqués, on sait le fric que ça génère. Et est-ce qu'on met autant chacun d'investissement dans la peinture? Est-ce qu'on soutient les artistes locaux qui sont à proximité? Bon voilà, moi c'est mon interrogation du moment. On est tous plus ou moins artistes, puisque la psychologie nous a amené à ça aujourd'hui, à savoir qu'on avait tous dans l'âme un fond d'artiste, on a tous la possibilité d'être des créateurs demain, mais qui aura la dignité de vivre de par sa création, qui pourra se prétendre être artiste ou pas artiste? Alors ça, c'est une grande interrogation. Moi, je trouve que c'est une interrogation qui a sa légitimité aujourd'hui par rapport à tout ce qui est codifié, c'est-à-dire les conventions collectives des métiers, par rapport aux examens qu'on fait passer à tout à chacun, par rapport aux futurs métiers qui s'ouvrent. Alors quelqu'un qui va travailler dans le numérique et qui est dans l'air du temps sera reconnu, aura peut-être le droit d'avoir un job salarié ou plus ou moins. Et les autres, oui, la peinture existera toujours, mais qui vit de la peinture? Qui vit réellement d'être un acteur de théâtre aujourd'hui? Voilà, s'il faut être dans quelques grandes troupes internationales pour avoir le droit d'être un créatif, ça me laisse perplexe quand même. Voilà, ça c'est mon interrogation par rapport à l'évolution de l'art au sens large.
Mais là, vous parlez, je crois, comme une créatrice, et vous avez tout à fait raison. Cette multiplication des expériences, j'appelle esthétiques, hein, de nous tous, ou artistiques, c'est aussi la multiplication des personnes qui veulent être artistes, qui veulent en vivre. Et là, on est obligé de constater qu'il y a un nombre de tragédies personnelles formidables, qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui voudraient être artistes et qui n'y parviennent pas, parce qu'effectivement, il y a toutes ces règles dont vous parlez, hein, qui font des règles de marché, des règles, etc., de jugement, qui font que beaucoup de gens qui aimeraient vivre de leur art ne peuvent pas le faire. Et donc, du point de vue du créateur, vous avez tout à fait raison. Mais le point de vue que j'ai voulu développer, c'était celui du regardeur.
Nous allons prendre les deux dernières questions ici. Jeudi.
L'art aussi, en fait, à un certain moment, s'est professionnalisé. Si on regarde historiquement, j'avais lu tout un livre sur un directeur de conservatoire, je crois, qui a des choses très intéressantes sur la musique, notamment, comment le musicien est devenu professionnel. Ouais. À un moment donné, donc, son ego se met en avant, alors qu'auparavant, même souvent, un créateur, par exemple, le suivant, l'élève, quand on disait qu'il dépasse le maître, ça, il piquait la musique de l'autre pour en faire autre chose, parce que des instruments s'étaient perfectionnés, mais ils prenaient la même base et sans aucun problème. Et au fur et à mesure, et bien effectivement, l'art s'est professionnalisé, donc ça veut dire être payé. Bach, par exemple, il avait un autre métier, hein, il faisait de la musique, mais il a composé. Mais voilà, donc c'est aussi tous ces problèmes que ça crée forcément au fur et à mesure, problème, un phénomène de société, là, qui est différent. Enfin, moi, je dirais qu'il y a une, pour moi, j'ai une différence entre, finalement, l'art avec un grand A, qui est au niveau structure, au niveau des institutions, et effectivement, l'activité artistique, le regard artistique. Pour moi, c'est deux choses qui sont différentes. Je suis artiste, donc je suis aussi, effectivement, de tout ça, mais en même temps, voilà, il y a aussi, voir un petit peu les deux aspects.
Non, on l'a souvent dit, ça a été le passage, si vous voulez, de l'artisanat. Longtemps, le mot art, vous le savez, signifiait une technique. Hein, effectivement, avec des transmissions de maître à élève. Et puis, le passage s'est fait. Bon, en Europe, c'est surtout à la Renaissance. Et puis, un petit peu après, le romantisme joue un rôle essentiel. L'art a désigné ce que désigne effectivement aujourd'hui une expression individuelle censée se faire tabula rasa à partir de rien, à partir de la création, donc, qui est potentiellement géniale d'individus. Et là, il y a eu un changement, il y a eu un changement de paradigme formidable. Cela dit, quand même, par exemple, les aèdes de la Grèce antique étaient payés, étaient bien payés. Les chanteurs de Véda, hein, dans la société védique, vivaient très bien. Hein. Donc, il y avait des formes aussi d'argent avant la conception moderne. Un Rubens, c'était un milliardaire. Hein. Et il faisait travailler des dizaines de gens sous ses ordres. Hein. Donc il ne faut pas trop non plus idéaliser l'art du passé qui aurait vécu en dehors de l'argent et le monde d'aujourd'hui qui serait pourri par l'argent.
Eh bien, la dernière question a disparu.
Donc,
ça dépend des sociétés. Dans certains cas, depuis très longtemps. Hein. Là, les céramiques grecques se vendaient très bien, étaient fabriquées même de façon quasiment industrielle. Il y a un quartier à Athènes qui en porte le nom. Il y avait des ateliers avec des dizaines de créateurs qui faisaient à l'identique, etc. Hein, tout comme les faïences chinoises, hein, des songs se sont répandus, ont été un instrument d'exportation de la richesse chinoise très tôt. Donc il faudrait vraiment nuancer, hein, vraiment regarder époque par époque.
Permettez une dernière remarque, ce serait pour dire qu'il y a une certaine forme d'art dans le fait de transmettre des informations et des connaissances et de susciter une réflexion et des échanges comme nous le faisons dans nos cercles de notre petite université, et il y a un plaisir physique, je trouve, et des circonvolutions cérébrales à pouvoir jouer avec ces idées qui peuvent nous faire, pour les quelques membres parmi nous qui faisons quelque chose, soit en danse, soit en peinture, soit dans le 3D ou le 4D, ou qui travaillons la terre ou le bois, ben ça peut nous faire rebondir vers d'autres choses. Donc, je suggère, avant de passer au saucisson, de remercier vraiment encore